Frères et sœurs, nous poursuivons avec les enfants de l'école biblique notre parcours au sein de l'Évangile selon Jean, le quatrième évangile. Et ce matin, je vous propose de faire halte au temps de la fête des tentes, non pas la fête où il s'agirait de se détendre, mais la fête des cabanes, des huttes, des tentes que l'on dresse en souvenir de ce que fut la période du désert. Et c'est au chapitre 7, les 19 premiers versets, que nous trouvons le texte qui nourrira notre méditation ce matin. Un texte qui commence d'ailleurs par répondre à celles et ceux qui imaginent que dans l'esprit de Jésus, il était clair qu'il devait mourir, voire ceux qui imaginent que Jésus cherchait tout pour aller droit à la mort. Eh bien, voici comment commence ce chapitre 7 de l'Évangile selon Jean. Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des huttes, était proche. Les frères de Jésus lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Et toi, si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Il a de la haine pour moi parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête, parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Et quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui-même, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et ils disaient « Où est-il ? » Et il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », mais d'autres disaient « Non, au contraire, car il égare la foule. » Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et ils disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ? » Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Et pourtant, nul de vous ne pratique la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? Seigneur, ta parole est la vérité. Alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, nous allons chanter au cantique 256, les strophes 1, 2 et 3. Nous nous levons pour chanter ce psaume 256, ce cantique 256. C'est le temps pour nous de nous recueillir dans la prière. Toi qui, par ton esprit, assemble les croyances en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, comment parler de Dieu ? En d'autres termes, pour utiliser le mot technique, comment faire de la théologie ? Je crois que les catéchumènes de notre Église ont quelques idées à ce sujet depuis qu'ils ont visité notre faculté de théologie protestante, boulevard Arago. Comment faire de la théologie ? C'est la question à laquelle tout croyant est confronté. Et je pense que si vous interrogiez ces catéchumènes, le premier constat qu'ils pourraient faire suite à cette rencontre avec le doyen de la faculté, c'est que la première chose qui frappe, c'est la variété des cours qui sont donnés dans une faculté de théologie. On y étudie la Bible, bien sûr, mais aussi l'histoire, la philosophie, la sociologie. On réfléchit à ce qu'est le culte, les diverses célébrations, la catéchèse, les sacrements. On y apprend des langues. On peut faire de la musique. On peut ensuite faire de l'archéologie. Et puis, il y a évidemment la théologie au sens un peu plus strict du terme, dans son côté dogmatique, au sens de l'étude rationnelle de ce que l'on peut dire au sujet de Dieu. Nous voyons à quel point la théologie, ce n'est pas une matière que l'on pourrait enseigner, mais un ensemble de disciplines bien plus large encore que cette liste que je viens d'évoquer. C'est un univers de matières qui entre les unes et les autres en dialogue et qui constitue ensemble la théologie. Et puis, si vous continuiez à interroger un peu les catéchumènes, je pense que dans un deuxième temps, ils pourraient vous dire que ce qui frappe, c'est que chaque matière, chaque discipline est elle-même plurielle, constituée d'éléments divers. Prenons le cas du département biblique. L'étude de l'Ancien Testament est distincte de l'étude du Nouveau Testament. Et qui étudie l'Ancien Testament va faire de l'hébreu pour avoir accès au texte dans sa forme originelle. Il va faire de l'épigraphie, la science de l'écriture, pour pouvoir consulter différents manuscrits. Il va utiliser les données de l'archéologie, de l'histoire pour comprendre dans quel contexte le texte a été écrit. Il va étudier le sens des mots en faisant de la sémantique. Il va étudier l'organisation de ces mots en faisant de la sémiotique. Il va étudier l'ensemble du texte en faisant une analyse littéraire. Peut-être même fera-t-il une analyse du genre littéraire. Et puis tout cela, il le comparera à d'autres études de textes similaires, qu'ils soient bibliques ou non. C'est de la littérature comparée. Bref, au sein de chaque discipline, il y a à nouveau un univers de disciplines qui coexistent. Et puis bien sûr, vous ne vous arrêteriez pas là. Vous continueriez à interroger les catéchumènes qui vous parleraient d'un troisième étonnement, d'un troisième constat. C'est de constater qu'au sein de chaque discipline, il y a des débats entre chercheurs. Il y a différentes compréhensions, différentes interprétations, et pas un point de vue unique. Certains exégètes vont dater un texte biblique de l'an 1000 avant notre ère, là où d'autres dateront le même texte du 6e siècle avant notre ère. C'est ce que le doyen de la faculté exprimait en expliquant qu'un travail universitaire commence toujours par recenser tout ce qui a été écrit au sujet de ce que l'on traite. On commence par faire le recensement de tout ce qui a été écrit. Preuve qu'il n'y a pas une seule chose qui a pu être décidée sur tel ou tel aspect théologique. Cela dit bien que sur un sujet, plusieurs convictions différentes peuvent être formulées. D'ailleurs, il n'est qu'à regarder ce qu'est une Bible, non pas un livre, mais une bibliothèque de 66 livres. Il y a plusieurs manières de parler de Dieu. Un seul livre ne suffisait pas. Et d'ailleurs, pour essayer de dire quelque chose sur Jésus, le christianisme a considéré que 4 évangiles ne seraient pas de trop. Cette longue introduction cherche à vous rendre sensible au fait que la théologie n'est pas une théorie unifiée. Il n'y a pas une théologie, mais des théologies qui coexistent. Et c'est là un fait que la Bible elle-même assume fort bien. Alors certains pourraient voir dans cette non-unité de la théologie une faiblesse pour la théologie. La preuve que ce n'est pas une véritable science. On pourrait dire que, au nom de cette non-unité de la théologie n'est qu'une science molle parmi d'autres. En général, ce sont ceux qui militent pour les sciences dures qui disent cela. Mais ce sont ceux qui ont également la mémoire courte. En sciences physiques, par exemple, il n'y a pas de théorie unifiée. Comme l'écrit le physicien Étienne Klein, il faut prendre acte du fait que la science ne parle pas de la même façon des atomes, des étoiles, des quarks, du vide, du temps, de l'espace. Et cela l'empêche de prétendre à être, au moins pour l'instant, une théorie du tout, au sens d'une théorie unitaire qui pourrait parler de tout de la même manière. La question demeure, comment faire de la théologie aujourd'hui? Eh bien, au fil du temps, 3 grandes méthodes ont vu le jour. 3 grandes méthodes qui apparaissent dans le texte biblique que nous avons lu ce matin. La première façon de faire de la théologie consiste à partir de ce qui est écrit dans les textes de référence pour en déduire qui est Dieu. C'est ce qu'on appelle la méthode déductive. Et nous en trouvons un exemple dans ce passage de l'Évangile selon Jean, lorsque les croyants s'étonnent que Jésus, qui est réputé pour n'avoir pas étudié, puisse néanmoins connaître les textes, les écritures, les grammata, dit le texte grec. Pour les tenants de cette méthode, Tout discours théologique doit être le fruit de ce qui fait autorité, à savoir les textes fondateurs et la tradition. Autrement dit, en christianisme, hors de la Bible, point de salut. Les textes fondateurs, la Bible, deviennent alors non seulement la norme de la foi, mais la seule expression autorisée en matière de foi. Ce qui est écrit est juste, ce qui n'est pas écrit est faux. Je caricature à peine. Une telle méthode, en tout cas, pose une limite très précise en matière de théologie. Il y a ce qui est conforme au texte biblique et ce qui ne l'est pas. Pour le dire avec une expression familière, il y a ce qui est orthodoxe et ce qui ne l'est pas. L'orthodoxie désignant la rectitude de ce que l'on dit par rapport à ce qui est écrit dans le texte de référence. Cette méthode déductive n'est pas celle de Jésus. Jésus qui oppose au texte écrit l'enseignement reçu de celui qui l'a envoyé. Jésus n'est pas celui qui sait les textes et peut les réciter. Il est celui qui est capable d'enseigner ce qu'il a reçu de Dieu par une autre méthode que le seul apprentissage de la lettre, des grammata. Relevons aussi que l'évangéliste Jean est critique vis-à-vis de cette méthode déductive. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je n'en parle pas avec une sympathie énorme. L'évangéliste Jean sous-entend que cette méthode est tout simplement mortifère. Oui, cette méthode est mortifère, car au lieu de considérer le texte biblique comme une paire de lunettes qui nous aide à mieux observer Dieu, à mieux voir qui est l'homme, mieux nous comprendre, eh bien, cette méthode considère que le texte biblique est une sorte de calibre qui mesure tout ce que l'on dit. Si c'est trop petit, alors ce n'est pas suffisamment croyant, et si ça dépasse, si ça déborde, alors il faut tailler en pièces. Lorsque Jean rapporte que Jésus met en relation le don de la loi par Moïse et la mise à mort de Jésus, l'évangéliste indique que la lettre seule tue. C'est une manière de dire que le principe de l'écriture seule, sans la grâce de Dieu, est un principe qui tue. À l'opposé de cette méthode, il y a une sorte de retour du balancier. Il y a l'effort spirituel pour partir non plus du texte biblique, mais de l'être humain. Partir de notre expérience pour découvrir Dieu à l'œuvre dans notre histoire. Et ce mouvement inverse, qui n'est plus déductif, c'est un mouvement que l'on peut appeler inductif, ou que certains sociologues comme Peter Berger qualifient de méthode réductrice. En quoi consiste cette méthode? Eh bien, elle part tout d'abord du principe que le monde est en constante évolution, en perpétuel changement. Et cette méthode considère que les textes fondateurs sont trop datés, trop anciens pour pouvoir dire quelque chose de pertinent aujourd'hui, aujourd'hui qui est si différent d'autrefois. Cette méthode a pour ambition de moderniser la théologie en tenant compte des progrès de la science, de la compréhension nouvelle de l'homme au sein de l'univers, au sein de la création. On ne part plus de la Bible, mais on part de l'expérience de l'homme pour faire de la théologie. Et c'est ce que font les frères de Jésus, en conseillant Jésus pour qu'il se rende à la fête des tentes, et ils le font sans chercher à se justifier en lisant dans les Écritures une justification à cela. Ils ne disent pas à Jésus qu'il doit se rendre à Jérusalem pour que s'accomplissent les prophéties, pour qu'il soit mis à mort et que le troisième jour, il ressuscite d'entre les morts. Les frères de Jésus ne justifient pas cela en disant que c'est ainsi que les choses ont été annoncées autrefois et c'est ainsi que la tradition l'a perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Les frères de Jésus font parler leurs tripes. Ils mettent en place une stratégie qui leur semble efficace pour que Jésus se fasse connaître et reconnaître d'un grand nombre de personnes, à commencer par les disciples. Ils ne vont pas chercher dans les textes du Premier Testament des arguments qui pourraient aider Jésus à agir. Non, ils réfléchissent, ils se disent, selon leur bon sens, voilà comment il faudrait procéder. Ce que font les frères de Jésus, c'est dans une certaine mesure projeter leur propre désir sur Jésus. Ils imaginent que c'est en allant à Jérusalem que Jésus va pouvoir être vu dans toute sa gloire, et alors ils font de cela une sorte de credo. C'est ce que le théologien protestant du XIXe siècle, théologien et philosophe surtout, Feuerbach, proposé comme définition de la religion, lui qui n'était pas très tendre avec la religion, au sens institutionnel du terme. Il disait que la religion est une gigantesque projection des préoccupations humaines dans le cosmos. Et à sa suite, bien des théologiens ont repéré à quel point la théologie est souvent une projection de ce que l'on pense soi, ou de ce qui nous manque, ou du contexte dans lequel on vit. Je suis pauvre, alors Dieu est ma véritable richesse. Je me sens terriblement seul, alors Dieu est celui qui m'aime. Je suis honteusement faible, alors Dieu est tout-puissant. Nous voyons bien que le problème avec cette méthode inductive qui part de l'homme pour arriver à Dieu, c'est qu'elle risque de créer un Dieu sur mesure. Un Dieu qui ne fait que répondre à nos attentes. Un Dieu qui ne fait que répondre à nos manques. Et ce Dieu devient alors une sorte d'idole que l'on se fabrique en fonction de ses besoins. Et comme le dit, comme l'écrit le pasteur Vincent Hubach dans cette remarquable revue Évangile et Liberté du mois de mars, en vente au comptoir librairie de notre temple, publicité gratuite, se projetant dans l'idolâtrie, en agissant ainsi, on adore un autre soi-même idéalisé. Et la conséquence de cet effet regrettable est que cela conduit souvent à la mort de la foi. De même que l'évangéliste Jean commente l'attitude des frères de Jésus en écrivant qu'ils ne croyaient pas non plus en Jésus, nous pouvons remarquer que la foi n'est plus nécessaire dans cette construction théologique qui revient à magnifier ses élans personnels, qui revient à magnifier ses intuitions et à élever ses opinions au rang de convictions universelles. Et c'est certainement la critique que je ferai à un libéralisme qui, abusant peut-être de cette méthode, a fait de la foi une question tout à fait annexe et accessoire. Alors le sociologue Peter Berger, toujours dans son ouvrage « L'impératif hérétique », nuance tout de même mon appréciation en notant que si les hommes projettent leurs idées dans le ciel, autrement dit, s'ils font de Dieu une sorte de projection de leur imaginaire, eh bien, leur capacité à le faire, écrit-il, provient de ce qu'ils ont quelque affinité céleste. Autrement dit, cette affinité céleste, c'est cette motivation que Dieu suscite en chaque personne pour justement s'est levé vers le ciel. Cette affinité céleste qui peut motiver cet élan vers Dieu, ce chemin que l'on emprunte en direction de Dieu, cette sorte d'ascension, sans partir des textes de référence, mais qui trouve néanmoins son origine en Dieu lui-même, c'est l'amorce de cette troisième méthode que j'appelle avec d'autres méthodes corrélatives. Je crois que c'est Paul Tillich qui en parle ainsi, et c'est ce que le sociologue Peter Berger nomme méthode inductive. Vous voyez, la théologie n'est vraiment pas une théorie unifiée. Il faut se repérer dans des mots qui, parfois, ne signifient pas la même chose. Cette méthode corrélative associe les deux précédentes, la déductive et l'inductive, en les faisant travailler de conserve. Ce n'est pas une méthode ou l'autre, mais l'une et l'autre, associées dans un incessant va-et-vient. Contre la néo-orthodoxie déductive, écrit Peter Berger, le seul point de départ possible pour une réflexion théologique est l'homme, avec le rejet de toute autorité extérieure, soit-elle scripturaire, ecclésiastique ou traditionnelle. Et contre le réductionnisme, il faut réaffirmer le caractère surnaturel et sacré de l'expérience religieuse, écrit-il, et le rejet de l'autorité particulièrement étouffante de la conscience séculière du monde. Autrement dit, Peter Berger récuse le fait que l'on se soumette à l'autorité d'un texte écrit, mais il refuse que l'on se soumette aussi aveuglément à cette conscience séculière de l'homme, autrement dit, au désir de notre propre nature. Et il me semble que c'est effectivement la voie que Jésus emprunte. Et en disant cela, je ne crois pas forcer le texte, mais être fidèle à ce qu'écrit l'évangéliste Jean. Jésus, qui refuse de capituler devant le diktat du « c'est écrit » et qui refuse de capituler aussi devant le diktat des bons sentiments, refusant la voie toute tracée des Écritures et la voie toute tracée du destin fantasmé. La voie que Jésus emprunte est, comme le plus souvent dans l'Évangile selon Jean, exprimée par les contradicteurs de Jésus eux-mêmes. Des contradicteurs, ceux qui s'opposent à Jésus, et qui sont pourtant détenteurs d'un savoir qui les dépasse largement. C'est ce qu'on appelle l'ironie joannique. Il y a des gens qui veulent dire du mal de Jésus, et en fait, curieusement, ce mal est la plus stricte vérité, la plus pure vérité, et c'est ce qui doit constituer pour nous le socle théologique. Dans notre passage biblique, cette ironie joannique, je la repère au verset 12. La vérité vient de ceux qui disent que Jésus égare la foule. Et je crois qu'il n'y a là rien de plus juste. Oui, et c'est là mon credo, Jésus égare la foule. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait de mieux, je trouve. Le verbe grec planao est en français un faux ami. On pourrait penser que planao signifie planifier, mettre en plan, bien cadrer les choses. Il veut dire égarer, écarter du droit chemin. Jésus est celui qui écarte les foules du droit chemin. Jésus est celui qui fait emprunter un chemin de traverse. Jésus est celui qui fait sortir des sentiers battus, qui fait quitter l'autoroute de la religion pour faire emprunter le chemin de la foi en Dieu. En ne se pliant à aucun diktat humain, Jésus peut rester fidèle à Dieu et faire droit à l'humanité en même temps. En ne se soumettant à aucune autre autorité que celle de Dieu lui-même, qui est toujours au-delà du verset et au-delà de nos rêves, Jésus évite le double piège que l'homme se tente en permanence, le piège orthodoxe du définitif, d'une pensée aboutie, d'une théologie totale, d'une part, et le piège humaniste d'une projection de soi qui fait de notre nombril l'élément de notre corps qui nous mène par le bout du nez. Que viennent faire ces questions de méthode dans une prédication, plutôt que dans une chaire universitaire? Eh bien, il me semble que ces questions de méthode, si elles peuvent sembler longues, peut-être rébarbatives, même si j'ai essayé de vous les rendre sympathiques, ne sont pas qu'un exercice de salon littéraire ou de citadelle universitaire. Et pour le dire avec une métaphore, pour ceux qui récuse le fait que la théologie soit au cœur de la foi chrétienne, ce n'est pas non plus un onanisme intellectuel parmi d'autres. Ces questions de méthode sont tout simplement décisives pour notre vie quotidienne, qui est constellée de choix à faire, de décisions difficiles à prendre, et ce n'est pas un leurre. Je n'y croyais pas non plus moi-même jusqu'à très récemment. Des décisions qui sont de plus en plus difficiles à prendre. Après la Seconde Guerre mondiale, un psychologue, Stanley Milgram, avait réalisé une expérience pour établir le lien entre la banalité du mal et la soumission à l'autorité, un peu en écho aux travaux de Hannah Arendt. L'expérience était la suivante. Il demandait à quelqu'un de faire apprendre des mots à un cobaye humain, puis de l'interroger, de façon à vérifier que la mémorisation était réussie. Et chaque fausse réponse devait être sanctionnée par une décharge électrique progressive de 15 volts, le maximum étant de 450 volts. L'enseignant, celui qui devait faire apprendre les mots, le véritable cobaye, ignorant que l'apprenant, celui qui devait apprendre les mots, était un comédien qui simulait la réception des décharges électriques, parce que le système électrique, évidemment, n'était pas branché, eh bien, le cobaye était face à quelqu'un qui avait un protocole. Le comédien simulait des réactions aux décharges électriques. Il simulait des souffrances de plus en plus grandes. À 150 volts, il devait demander qu'on le libérât. À 270 volts, il poussait un cri violent. À 300 volts, il clamait qu'il ne répondrait plus. Alors les psychologues avaient fait quelques estimations pour savoir combien de cobayes iraient jusqu'au bout, jusqu'à 450 volts, des charges mortelles. Et leur estimation était de 1 pour 1000. En 1960, date de l'expérience, 62,5% des personnes sont allées jusqu'à 450 volts. 6 personnes sur 10 parmi nous. En 1960, l'expérience vient d'être reproduite pour une émission de télévision que je ne vous encourage pas à regarder. Résultat, en 2010, nous sommes passés de 62,5% à 81%. 8 personnes sur 10 capables de donner une décharge mortelle à quelqu'un au nom de l'expérience. Parce que il y a une figure d'autorité qui est là pour rappeler que le protocole est à suivre et qu'il faut agir. Les questions de méthode en théologie ne sont vraiment pas accessoires. Ce sont elles qui nous aident à construire nos représentations de Dieu, du monde et de l'homme. Et selon la méthode que nous adoptons, c'est le regard que nous portons sur notre vie quotidienne et sur autrui qui s'en trouve déterminé. Alors nous pouvons faire le choix d'une méthode qui nous soumette à une autorité, que ce soit une soumission à une orthodoxie qui élimine tout ce qui lui est étranger, ou que ce soit une soumission à une méthode qui nous soumet à l'opinion d'un moment. Dans les deux cas, nous révèle l'évangéliste Jean, ces choix peuvent être mortels. Alors je ne dis pas que la méthode corrélative nous exempte de ces 80% quotidiens. Je ne dis pas que la méthode corrélative est une méthode infaillible pour être du côté de la vie et de la justice. Mais il me semble que cette méthode corrélative, qui tient compte à la fois du texte écrit, mais aussi de notre expérience personnelle, peut nous éviter quelques écueils tout de même. Jésus me semble être celui qui nous ouvre ce chemin de crête entre ces deux précipices, entre cette mort qu'il évite au verset 1 et qui est le fruit de la méthode inductive, et cette mise à mort qu'il dénonce au verset 19 qui est le fruit de la méthode déductive. Dans ce passage finalement entièrement marqué par la mort, mort qui menace tant notre vie, même si nous ne nous en rendons pas compte, eh bien, Jésus ouvre un chemin de dialogue entre ces deux méthodes, en faisant le choix du face-à-face avec le divin, en s'exposant à la parole de Dieu qu'il n'identifie pas au texte écrit, et le choix de l'intériorité du divin qui fait droit à l'expérience personnelle et à ce que nous dicte notre cœur. C'est en s'appuyant sur l'un et sur l'autre que nous pourrons, je l'espère, être comme Jésus à l'écoute des signes des temps et être comme Jésus, porteur de vie et non de mort. Amen.